Chapitre 2. Dieu voulait tout de même une famille. Dans le dernier chapitre, j'ai expliqué que Dieu a équipé les gens pour l'imager sur terre. Il l'a fait en partageant ses attributs, ses qualités et ses capacités avec eux. Aussi merveilleux que cela a été, et que c'est merveilleux, c'est là que les choses deviennent intéressantes et effrayantes. Une des qualités de Dieu est la liberté, ce que nous appelons souvent le libre arbitre. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a du mal dans le monde, voici la réponse de la Bible. Rébellion numéro 1. Quand Dieu a pris la décision de partager ses attributs avec ses enfants, il savait ce que cela signifiait. Dieu sait tout, alors il savait clairement ce qui allait arriver. Dieu avait déjà pris la même décision avec la famille céleste qu'il avait créée. Ils ont aussi des habiletés comme l'intelligence et la liberté, des dons qu'ils ont reçus de leur Créateur. Tôt ou tard, Dieu sut que ces dons seraient mal utilisés ou exploités. Il savait très bien que même si ses enfants, dans le monde spirituel et sur la terre, lui ressemblaient, ils n'étaient pas lui. Ils étaient moindres que lui. Ils étaient imparfaits alors qu'il est parfait. À un moment donné, un ou plusieurs de ses enfants a commis une horrible erreur ou a agi dans un intérêt personnel irréfléchi, se rebellant contre quelque chose que Dieu voulait faire ou non. C'est précisément ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam et Ève se sont rebellés. Ils ont violé le commandement de Dieu de ne pas manger de l'un des arbres du jardin. Ils ont péché et ont perdu la vie éternelle en présence de Dieu. Tout être humain né par la suite est né hors d'Éden, séparé de Dieu. L'apôtre Paul l'a bien résumé. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Cette tragédie a été provoquée par une rébellion encore bien plus antérieure. Un des enfants surnaturels de Dieu a décidé de déshonorer sa décision de fonder une famille humaine en tentant Ève, espérant que Dieu la détruise ainsi qu'Adam. Il vint à Ève sous la forme d'un serpent. Genèse 3, versets 1 à 7. La Bible fait référence au serpent comme étant Satan et le diable. Apocalypse 12, verset 9. Il a réussi à faire pécher Ève, mais a échoué de se débarrasser de l'humanité de façon permanente. Il y a ici quelques vérités profondes, dont la première répond à une question que tout le monde se pose à un moment de la vie. Pourquoi le mal existe-t-il dans le monde? Le mal existe dans le monde parce que Dieu a décidé qu'il voulait créer des êtres comme lui. Je ne veux pas dire que Dieu a un mauvais côté, je veux dire plutôt que Dieu a rejeté l'idée de créer des humains sous forme de robots ou d'ordinateurs préprogrammés en chair. Ce dernier point est important. Notre ressemblance avec lui devait être authentique. Sans la véritable liberté de prendre de vraies décisions, nous ne serions tout simplement pas comme Dieu. Dieu n'est pas un robot, et nous avons été faits pour lui ressembler. Sans véritable libre arbitre, nous ne pouvons pas authentiquement aimer Dieu ni obéir à Dieu. Si les décisions sont préprogrammées, elles ne sont pas vraiment des décisions. Pour que des décisions telles que l'amour et l'obéissance soient authentiques, elles doivent être prises en vue d'une alternative réellement possible. Le résultat de tout ceci est que le mal existe parce que les gens abusent du merveilleux don de Dieu, de la liberté, et l'utilise pour se satisfaire, se venger et produire une illusion d'autonomie. Cet abus a commencé en Éden. Mais Dieu n'a pas été pris par surprise. Il avait anticipé le mal. Il prévoyait ce qui se passerait et avait prévu en conséquence. Dieu n'a pas détruit ses enfants humains pour leur rébellion. Au lieu, il les a pardonnés et il les a rachetés. La Bible dit clairement que Dieu a vu ce qui allait arriver et avait mis en place un plan de pardon et de salut avant même que la rébellion ne se produise, depuis la fondation du monde, pour être précis. Éphésiens 1, 4, Hébreux 9, 26 à 10, verset 7, et 1 Pierre, chapitre 1, verset 20. Le plan du salut a exigé, en fin de compte, que Dieu devienne un homme. Nous allons arriver à cette partie de l'histoire assez tôt. Mais bien avant cet événement décisif, il y avait un prix à payer pour ce qui s'est passé en Éden. Dieu a banni Adam et Ève, et donc leurs descendants, de sa présence. Éden n'était plus. Au lieu de la vie éternelle avec Dieu, leur Père, l'humanité attendrait maintenant la mort. Romains 5, 12. C'est finalement ce que la séparation de la source de la vie, Dieu, coûte. En réalité, Dieu a chassé ses enfants de sa maison. Mais c'était un meilleur résultat que ce que le serpent avait espéré, la destruction humaine. Dieu n'abandonnait pas son projet de fonder une famille humaine, mais la rébellion avait un coût. Dieu a également puni Satan. Ayant introduit la mort dans le monde de Dieu, il devint le seigneur du royaume des morts, ce qui deviendra plus tard connu comme l'enfer. Aucun plan de secours. Vous pourriez vous demander jusqu'à ce point pourquoi Dieu n'a pas abandonné tout le projet afin d'avoir une famille humaine. Après tout, Dieu a permis le libre arbitre, sachant que cela conduirait au péché et à des milliers d'années de misère humaine sous la forme de violence, de négligence, d'égoïsme et d'une foule d'autres choses terribles que les humains sont capables d'infliger les uns les autres. Peut-être que votre propre souffrance ou la souffrance que vous voyez autour de vous pourrait même vous faire désirer que Dieu ait tout détruit. Croyez-le ou non, Dieu comprend ce sentiment. Il voit les maux que vous voyez et infiniment plus. Rien de tout cela n'est comme il le voulait. Mais vous dites, il est Dieu. Ne peut-il pas tout surpasser? Ce n'est pas aussi simple. Pensez-y. Dieu ne peut éliminer le mal dans notre monde que s'il élimine tous ceux qui font le mal. En d'autres termes, Dieu ne peut en finir avec le mal que s'il nous élimine tous. Tout le monde pêche. Romains chapitre 3, versets 10 à 12. Et comme le dit la Bible, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Alors, certainement, Dieu peut le faire, mais il ne le fait pas. Il aime l'humanité beaucoup trop pour que cela soit une option. Tout ceci se résume en une vérité étonnante. Bien que Dieu sût que nous faire comme lui nous amènerait à ce point, le résultat était préférable à l'absence d'une famille humaine. Dieu voit le péché et la misère dans notre monde et en connaît la cause. Cela lui fait mal. Dieu est tellement consumé d'amour pour ses enfants humains qu'il ne se détournera pas de son ambition initiale. Il n'y a pas de plan B, il y a seulement le plan A. Bien qu'il eût prévu la rébellion qui viendrait en Éden et tous les échecs et les péchés qui suivraient, y compris les nôtres, Dieu aspire toujours à une famille humaine. Ce qui s'est passé à Éden n'était que le début de l'histoire. Dieu avait chassé Adam et Ève de sa maison. Genèse 3, versets 22 à 24. Il a maudit le serpent. Genèse 3, versets 14 à 15. Et le chassa de sa présence. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. Et Ézéchiel, chapitre 28, 16. Le message était simple et puissant. La rébellion doit être punie. Vous auriez pensé que tout le monde comprendrait le message. Et non. Les choses ont bien plus empiré. Rébellion numéro 2. Vous avez peut-être entendu quelque part, à un certain moment donné, que la Bible enseigne qu'il y a tellement de mal dans le monde à cause de la chute de l'humanité par le péché dans le jardin d'Éden. Ce n'est que partiellement vrai. Après la tragédie d'Éden, il y a eu deux autres épisodes qui ont plongé l'humanité bien plus dans les profondeurs de la dépravation et du chaos. Le premier de ceux-ci est décrit dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Probablement l'un des incidents les plus étranges de toute la Bible. Croyez-moi, j'ai écrit des livres entiers sur ceci. L'histoire raconte comment certains enfants surnaturels de Dieu, les fils de Dieu, ont voulu imiter Dieu en produisant eux-mêmes leurs propres enfants humains afin de s'imager eux-mêmes. Ils ont décidé d'utiliser des femmes humaines, les filles des hommes, à cette fin. Cela les a fait ennemis de Dieu, leur propre Père céleste. Plutôt que d'être satisfaits du désir de Dieu d'avoir des êtres humains devenir des membres de leur famille, ils ont décidé de vouloir être les seigneurs de leurs propres humains. Ce n'était pas ce que Dieu avait en tête. Dieu voulait une famille, pas des esclaves. Ces anges qui ont péché, 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, ont transgressé la frontière entre le ciel et la terre. Ils n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, Jude, verset 6. En conséquence, Dieu les envoya en enfer, 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 5, et Jude, verset 6. Mais l'acte avait déjà été commis et ses conséquences ont été désastreuses. Regardez les deux versets qui suivent le récit biblique de cette rébellion. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Genèse, chapitre 6, versets 5 à 6. Pensez-y. Chaque intention dans leur cœur de chacun n'était que du mal continuellement. Dieu regrettait d'avoir fait l'humanité. Cette pensée le découragea. Ceci est la définition même de la dépravation et de la peine qu'elle entraîne. La première rébellion surnaturelle a conduit l'humanité à perdre la vie éternelle avec Dieu, ce qui est déjà assez grave. Cette rébellion a porté les effets du péché à un autre niveau, accélérant l'autodestruction humaine. Dieu a ressenti un remords profond sur la façon dont les choses s'étaient déroulées. L'humanité avait été endommagée de façon permanente. La Bible nous dit que Dieu ne voyait pas d'autre solution que d'envoyer le déluge pour anéantir l'humanité. Genèse chapitre 6, verset 17. Il est important de noter que l'histoire du déluge ne dit jamais que Dieu était en colère. Ça ne dit seulement qu'il avait le cœur brisé par ce qui se passait. Dieu avait décidé de donner aux humains la liberté. Il ne pouvait pas l'enlever car cela signifierait qu'ils ne seraient plus comme lui. Ils ne seraient plus vraiment humains. Le seul choix était de recommencer et de mettre fin à ce que les fils de Dieu rebelles avaient causé. Seulement un homme était juste aux yeux de Dieu. Noé. Genèse chapitre 6, verset 9. Au moins, il y en avait un. Dieu l'a pris. Il continuerait de l'avant avec son plan d'avoir une famille humaine. Dieu a dit à Noé de construire une arche, un grand bateau, afin que lui, sa famille et une multitude d'animaux puissent survivre. Mais Dieu gardait toujours l'espoir que, aussi profond que soit devenue la dépravation humaine, ses enfants humains pourraient être avec lui. Heureusement, il a donné 120 ans à Noé pour se préparer pour le déluge, Genèse chapitre 6, verset 3, et dire aux gens ce qui allait se passer afin qu'ils se détournent de leur dépravation et soient pardonnés, 2 Pierre chapitre 2, verset 5. En fin de compte, les gens n'écoutaient pas. Ils ont refusé l'avertissement miséricordieux de Dieu. Encore une fois, les enfants de Dieu lui tournèrent le dos, comme ils étaient libres de le faire. Est-il étonnant que le cœur de Dieu soit si brisé? Au moins, il y avait Noé et sa famille. Après le déluge, Dieu répéta les commandements originels qu'il avait donnés à Adam et Ève. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Genèse 9, 1. Dieu recommençait avec eux. Il a fait une alliance avec Noé qui s'étendue à toute l'humanité. Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. Une alliance est une promesse ou un gage. Cette alliance était unilatérale. C'est la promesse de Dieu de ne jamais détruire l'humanité. Genèse chapitre 9, verset 11. Étonnamment, Dieu voulait toujours une famille humaine. Pas aussi merveilleuse, mais quand même assez incroyable. L'abus de la bonté de Dieu continuerait. Une troisième rébellion a suivi le déluge. Celui-ci encadrerait le reste de l'histoire biblique et montrerait, encore une fois, la patience et l'amour invincible de Dieu. Rébellion numéro 3. Comme les histoires d'Adam et Ève et le déluge de Noé, vous avez peut-être entendu parler de la tour de Babel. Sinon, c'est correct, car même la plupart des membres d'Église ne se rendent pas compte de ce qui s'est réellement passé. L'histoire de la tour de Babel se retrouve dans Genèse 11, versets 1 à 9. Après le déluge, Dieu voulait que les descendants de Noé se multiplient et s'étendent sur la terre. Comme Adam et Ève, ils devaient être les collaborateurs de Dieu pour maintenir la création. Au lieu de faire cela, ils se sont rassemblés à un endroit appelé Babel et ont construit une tour pour leur propre gloire. Genèse chapitre 11, versets 1 à 4. Cela est la version habituelle de l'histoire, mais sa véritable signification se retrouve dans deux versets inconnus dans un autre livre biblique. Les voici. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Deutéronome 32, versets 8 à 9. Ces deux versets nous disent qu'un des jugements à la tour de Babel était la division de l'humanité. Jusqu'à ce point de l'histoire, Dieu traitait l'humanité d'une façon collective. Cela a changé à Babel. Les êtres humains ont été divisés par langue et géographie. Pire encore, Dieu s'est divorcé de l'humanité. Fatigué de la famille humaine envers sa volonté, Dieu assigna les nations de la terre à d'autres membres de sa famille surnaturelle, les fils de Dieu. Ce groupe était différent de ceux qui avaient transgressé avant le déluge. Dieu ne pouvait pas chasser l'humanité de sa maison. Il l'avait déjà fait à Éden. Il avait promis de ne pas détruire l'humanité après le déluge. Genèse 9, 11. Alors ce désastre ne pouvait pas se répéter. Donc, quoi d'autre pouvait-il faire? Il a essentiellement dit « Assez. Si vous ne voulez pas que je sois votre Dieu, je vais vous assigner à certains de mes assistants célestes. » Les conséquences de ce jugement ont pris de nombreuses formes. Nous ne savons pas combien de temps cela a pris, mais la Bible nous dit que les fils surnaturels de Dieu, assignés aux nations, ont fait un travail déplorable. Ils sont devenus tellement corrompus, psaume 82, versets 1 à 5, que Dieu devait aussi les juger. Un jour, il enlèvera leur immortalité et ramènera les nations. Psaume 82, versets 6 à 8. À notre compte, la frustration de Dieu l'a laissé sans enfant en vue d'une famille humaine. Il en avait assez. Il allait abandonner. Bon, peut-être pas. L'amour persistant de Dieu. Devinez ce qui s'est passé juste après la catastrophe de la tour de Babel. Dieu est apparu à Abraham, appelé originellement Abram. Un vieil homme marié à une femme, Sarah, qui était au-delà de l'âge pour avoir des enfants. Dieu a fait alliance avec Abraham. Il a promis au vieil homme et à sa femme qu'ils auraient un fils. Dieu allait faire un miracle. Leur fils allait être le début d'une nouvelle famille pour Dieu sur terre. Genèse chapitre 12, versets 1 à 9. Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Genèse chapitre 18, versets 1 à 15. Ayant attribué l'humanité à la surveillance des membres de son armée céleste, Dieu voulait recommencer à neuf avec sa propre famille, avec celle d'Abraham. Celui-ci a cru les promesses de Dieu. Genèse 15, 6. Il n'avait pas à gagner l'intérêt ou la faveur de Dieu. C'était Dieu qui avait choisi Abraham pour recommencer. La relation entre Dieu et Abraham a commencé avec Dieu. Abraham a cru. Ensuite, la relation d'alliance qui a commencé avec l'appel de Dieu et la foi d'Abraham a été commémorée avec le signe physique de la circoncision. Genèse chapitre 17, versets 1 à 14. Romains chapitre 4, versets 1 à 12. Toute la famille d'Abraham a suivi son exemple. Genèse chapitre 17, verset 23. Porter ce signe identifiait les descendants d'Abraham comme étant le peuple que Dieu voulait avoir comme famille. La circoncision était aussi un signe pour les femmes de la lignée d'Abraham. Puisqu'elles ne devaient se marier qu'avec ceux de la tribu étendue, comme un rappel à la manière que leur peuple avait été créé surnaturellement à partir d'Abraham et de Sarah lorsqu'elles décideraient d'avoir leurs propres enfants. Il est important de réaliser que l'alliance de Dieu avec Abraham était basée sur la croyance en ses promesses, la foi. Dieu n'a pas approché Abraham parce qu'il avait trouvé un homme qui était bon détenteur des règlements. Le salut n'est pas basé sur le comportement. Nous ne pouvons pas gagner notre salut. Si tel était le cas, Dieu serait dans notre dette en vertu de notre performance. Il nous devrait quelque chose en réponse de notre succès. Pensez comment ceci est absurde. Au lieu, Abraham et ses descendants ont montré leur foi en les promesses de Dieu en observant le signe de l'Alliance. C'était une méthode externe de démontrer leur loyauté. L'apôtre Paul a utilisé Abraham comme exemple de loyauté croyante. Romains chapitre 4, versets 1 à 12. Abraham a cru et a été accepté par Dieu avant d'obéir quelconque règlement. Les règlements visaient à montrer qu'il croyait. Ils n'ont pas remplacé la croyance. La croyance, la foi, était la seule chose essentielle. La loyauté envers cette croyance, envers ce Dieu, est une chose dont nous parlerons plus tard. Aujourd'hui, nous l'appelons la vie de disciple. La croyance et la loyauté sont deux choses distinctes. Elles sont associées, mais non interchangeables. La même chose est vraie du salut et de la vie de disciple. Promettre un fils à Abraham, et à travers lui le début d'une nouvelle famille qui allait devenir une grande nation, était la deuxième alliance de Dieu après le désastre d'Éden. La première était avec Noé. Toutes les deux ont été conçues pour préserver son rêve de fonder une famille humaine. Mais ces alliances n'existaient pas simplement pour que Dieu n'abandonne pas. Il existait également pour étendre l'offre de la vie éternelle aux gens. Dieu n'avait pas abandonné l'humanité. Il ne pouvait pas arrêter d'aimer les gens. Dieu voulait tout de même une famille humaine. Dieu a tenu sa promesse envers Abraham. Lui et Sarah ont effectivement eu un fils, Isaac. Genèse, chapitre 17, versets 19 à 21. Chapitre 21, 1 à 7. La famille étendue d'Abraham a été connue sous le nom d'Israël. Le nom le plus utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner la famille humaine de Dieu. Genèse, chapitre 32, verset 28. Deutéronome, chapitre 32, verset 9. Et Ésaïe, chapitre 44, verset 1. Mais qu'en est-il des peuples des autres nations, ceux que Dieu avait assignés aux fils de Dieu après la rébellion de la tour de Babel? Dans la Bible, ils sont appelés païens, un court terme qui signifie « pas d'Israël ». Et malgré ce qui s'est passé à Babel, Dieu n'a pas oublié ses peuples. Non seulement Dieu allait encore recommencer avec un nouveau peuple, Israël, mais il a dit à Abraham que ses descendants seraient un jour une bénédiction pour les autres nations que Dieu avait abandonnées. Genèse, chapitre 12, verset 3. De nombreuses années plus tard, Jésus, qui appartenait à la famille d'Abraham, serait le descendant particulier qui ramènerait toutes les nations du monde à Dieu. Galates, chapitre 3, versets 16 à 18 et versets 26 à 29. Avant que Jésus n'arrive sur les lieux, les païens pouvaient rejoindre la famille de Dieu en choisissant de rejeter tous les autres dieux, croire en lui et porter le signe de l'alliance de Dieu. Beaucoup de temps s'est écoulé entre le temps d'Abraham et celui de Jésus. La propre histoire d'Israël en tant que portion du Seigneur, Deutéronome 32, verset 9, n'a pas été très jolie. Ils étaient le peuple de Dieu, mais malheureusement, peut-être de façon prévisible, leur loyauté a échoué. La période la plus sombre était encore à venir.